ce qu'il y a dans le message, ça peut aussi réellement, sérieusement alimenter notre temps, pas seulement d'intercession, mais de louange, d'action de grâce, et qu'on puisse réellement avoir bien des sujets, pas seulement de demander au Seigneur, mais aussi de bénir le Seigneur, et de simplement sans cesse le louer. On a toutes les raisons de le louer. Bien sûr, on ne veut que rien, comme on l'a acheté, nous empêche de le louer. Et quand on y fait bien attention, la parole nous montre tout ce que nous avons, tous les sujets de louange, d'action de grâce, des remerciements que nous avons. Vous savez que sur ces mardis, on considère ensemble les épîtres que Paul a écrites à des communautés. Et nous en ressortons, on ne peut pas tout étudier, bien sûr, mais on considère les grands principes spirituels qui vont garantir la vie de l'Église, des principes sur lesquels l'Église doit sans cesse veiller. Ce sont des principes qui garantissent son salut, sa vie. Ce sont des fondamentaux que aucun disciple, aucune Église ne devrait jamais perdre de vue, parce que c'est notre qualité de vie qui nous dépend. C'est comme ça qu'on est toujours une Église selon le cœur de Dieu. On a considéré les grandes lignes de l'Épître aux Romains. On a considéré aussi l'Épître aux Galates, l'Épître aux Philippiens. Tout est enregistré, les PowerPoints, tout est à votre disposition. La semaine dernière, on a considéré l'Épître aux Colossiens et on a vu que même si, effectivement, les Épîtres sont christocentriques, c'est dans l'Épître aux Colossiens que Christ est plus encore centré que dans n'importe quel autre. L'apôtre Paul ramène tout à Christ, d'une façon ou d'une autre. Ce soir, je voudrais partager avec vous, dans l'Épître aux Éphésiens, cette première pensée. On va faire en deux axes, ce soir et la semaine prochaine. Je ne sais pas si vous avez fait attention, mais l'Épître aux Éphésiens, en réalité, on peut la considérer en deux axes. Les trois premiers chapitres, l'Église est comblée. Les trois derniers chapitres, parce qu'elle est comblée, l'Église est responsable. Et on va voir concrètement sur ce soir et mardi prochain, sur ces deux réunions, l'Église comblée est responsable. Et on va lire ensemble. Alors, je vous ai mis un petit peu tout ce qu'on va lire ici. Ce sera peut-être un peu plus long que d'habitude, mais vous allez voir que il y a vraiment des choses extraordinaires à ressortir dans l'Épître aux Éphésiens. On prend au chapitre 1er, verset 3. Si effectivement toutes les épîtres sont christocentriques, mais que celle aux Colossiens était encore axée sur la prééminence de Christ, on s'aperçoit que dans l'Épître aux Éphésiens, même si dans toutes les épîtres on trouve les bénédictions de Dieu sur nos vies, l'Épître aux Éphésiens est réellement un condensé de toutes les bénédictions spirituelles qui nous ont été acquises par le Dieu Trinitaire. Éphésiens, chapitre 1er, verset 3. Béni soit Dieu le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. En lui, Dieu nous a élus avant la fondation du monde pour que nous soyons saints et irrépréhensible devant lui. Il nous a prédestinés dans son amour, à être ses enfants d'adoption par Jésus-Christ, selon le bon plaisir de sa volonté, à la louange de la gloire de sa grâce qu'il nous a accordée en son bien-aimé. En lui, nous avons la rédemption par son sang, la rémission des péchés, selon la richesse de sa grâce. On va un petit peu plus loin, verset 11. En lui, nous sommes aussi devenus héritiers, ayant été prédestinés suivant la résolution de celui qui opère toutes choses après le conseil de sa volonté, afin que nous servions à la louange de sa gloire, nous qui d'avance avons espéré en Christ. En lui, vous aussi, après avoir entendu la parole de vérité, l'évangile de votre salut, en lui vous avez cru et vous avez été scellés du Saint-Esprit qui avait été promis, verset 14, lequel, cet Esprit-Saint, est un gage de notre héritage pour la rédemption de ceux que Dieu s'est acquis à la louange de sa gloire. Un petit peu plus loin au verset 16, je ne cesse de rendre grâce pour vous, faisant mention de mes prières, afin que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, vous donne un esprit de sagesse et de révélation Il leur expose des choses extraordinaires, mais il prend aussi le temps de prier pour qu'ils aient un esprit de révélation. Vous allez comprendre pourquoi. Un esprit de sagesse et de révélation dans sa connaissance, et qu'il, verset 18, qu'il illumine les yeux de votre cœur pour que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel, quelle est la richesse de la gloire de son héritage qu'il réserve aux saints, et quelle est envers vous, nous qui croyons, l'infinie grandeur de sa puissance, se manifestant avec efficacité par la vertu de sa force. Il l'a déployée en Christ en le ressuscitant des morts, en le faisant asseoir à sa droite, dans les lieux célestes, au-dessus de toute domination, toute autorité, toute puissance, toute dignité, de tout nom qui peut se nommer, non seulement dans le siècle présent, mais encore dans le siècle à venir. Il l'a mis sous ses pieds et il l'a donné pour chef suprême à l'Église, qui est son corps, la plénitude de celui qui remplit tout et en tous. On continue un petit peu. Au chapitre 2, on prend les versets 4 à 6. Dieu qui est riche en miséricorde à cause du grand amour dont il nous a aimés, et nous qui étions morts par nos offenses, nous a rendus à la vie avec Christ. C'est par grâce que vous êtes sauvés. Il nous a ressuscités ensemble et nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Jésus-Christ. On descend encore un petit peu, les versets 13, 14. Je suis obligé de sélectionner un petit peu la lecture. Je vous encourage quand même vraiment à relire tout ça chez vous. Mais maintenant, verset 13, en Jésus-Christ, vous qui étiez jadis éloignés, vous avez été rapprochés par le sang de Christ, car il est notre paix, lui qui des deux n'en a fait qu'un. Il a renversé le mur de séparation, inimitié, ayant anéanti par sa chair la loi, les ordonnances dans ses prescriptions, afin de créer en lui-même avec les deux un seul homme nouveau, en établissant la paix. On va au verset 18 et 19. Par lui, nous avons les uns et les autres accès et près du Père dans un même esprit. Maintenant donc, vous n'êtes plus des étrangers. Vous n'êtes pas des gens du dehors. Vous êtes concitoyens des saints. Vous êtes des gens de la maison de Dieu. Verset 22. En lui, vous êtes aussi édifiés pour être une habitation de Dieu en esprit. Et au chapitre 3, on prend le verset 14 à 20. Les versets 14 à 20, chapitre 3, verset 14. Cause de cela, dit Paul, je fléchis les genoux devant le Père, duquel tire son nom toute famille dans les cieux et sur la terre, afin qu'il vous donne, selon la richesse de sa gloire, d'être puissamment fortifié par son esprit dans l'homme intérieur. Qu'il vous donne d'être puissamment fortifié par son esprit dans l'homme intérieur, en sorte que Christ habite dans vos cœurs par la foi, afin qu'étant enraciné, fondé dans l'amour, vous puissiez comprendre avec tous les saints quelle est la largeur, la longueur, la profondeur, la hauteur. Il parle de l'amour de Christ. Bien sûr, verset 19, et connaître l'amour de Christ qui surpasse toute connaissance, en sorte que vous soyez remplis jusqu'à toute la plénitude de Dieu. Amen. Ça vaut réellement la peine, bien-aimé, de prendre le temps de lire et de relire cet épître et de considérer ce que bon nombre de théologiens, ils ont eu raison, ont appelé la chambre du trésor. Parce que là, l'apôtre Paul nous entraîne dans vraiment le coffre-fort du ciel et nous montre tout ce que le Seigneur, dans sa grâce, nous a acquis. Il nous fait contempler, on l'a chanté, il nous fait contempler ses merveilles et tout ce qu'il nous a acquis. C'est ici un condensé de bénédictions spirituelles et ici, plus que dans n'importe quel autre épître, Paul va mettre en évidence tout ce que l'Église, tout ce que les disciples possèdent en Jésus-Christ, tout ce qu'il leur a acquis. Il insiste énormément sur les richesses que Dieu a acquises, sur la beauté, la valeur de ce qu'elle possède, et vu ce qu'il expose, et vu ses prières pour eux, il est très probable, surtout quand on va considérer la suite de l'Église d'Éphèse, il est très probable que ces vérités glorieuses n'étaient pas si évidentes pour eux. Je ne suis pas sûr qu'elle le soit toujours pour les disciples que nous sommes. Il y a certainement plus de vérité, de toutes ces vérités, des belles choses qui sont coincées dans nos têtes, mais qui n'ont pas encore donné une dynamique de vie à nos cœurs, à nos vies, à notre Église en général. Certainement que ça devait être plus dans leur tête, dans leur cœur, soit ils n'en étaient pas trop conscients, ou alors ils avaient un peu, peut-être un peu beaucoup tendance à le négliger, puisque on voit quand même, en plus de ce que Paul leur montre, on voit qu'il insiste beaucoup, il prie pour eux, pour qu'ils aient un esprit de révélation, un esprit de sagesse, un esprit de révélation dans sa connaissance. Je prie afin qu'il illumine les yeux de votre cœur au sujet de la gloire de son héritage. Je prie que vous connaissiez l'infinie grandeur de sa puissance, que vous compreniez les dimensions de son amour, que vous soyez fortifiés dans l'homme intérieur, que vous soyez remplis jusqu'à toute la plénitude de Dieu. On voit que non seulement il leur présente des choses toutes plus belles les unes que les autres, mais qu'en même temps, il est obligé de beaucoup insister, de prier, de prier, de prier, pour que, non pas que ça rentre, mais pour que ça rentre. Alors pour l'enregistrement, il ne faut pas que ça rentre dans la tête, il faut que ça rentre dans le cœur. Et certainement que ces vérités, ce n'était pas si évident pour eux que ça, de la même façon que ce n'est pas forcément si évident que ça pour nous. L'Église doit prendre conscience, il s'agit, bien aimé, pour les clercs, il ne s'agit pas de connaissances intellectuelles, il s'agit de révélation de cœur, il s'agit de prise de conscience de ce que nous avons réellement réalisé dans notre être intérieur, ce qui a bouleversé nos cœurs. Oh. Je vais vous mettre un petit peu aussi ce que je raconte. Voilà. Vous êtes bénis tout de suite, verset 3, chapitre 1, verset 3, on l'a vu, vous êtes bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles. Ce sont les bénédictions du Dieu Trinitaire. Dès le début, Paul commence avec ça. Dieu, pardon, Paul veut montrer à quel point Dieu, dans sa personne, dans sa grâce, est riche et à quel point il est généreux, à quel point il a été riche envers chacun d'entre nous. Il y a les bénédictions de Dieu le Père, les bénédictions de Dieu le Fils et les bénédictions de Dieu le Saint-Esprit. Vous avez été, la première chose que Paul montre, cette merveilleuse, c'est bien plus qu'une doctrine, c'est bien plus qu'un concept, c'est cette réalité spirituelle. Nous avons été adoptés, Dieu le Père. Nous sommes ses enfants. Et ça, c'est bien plus que le privilège d'avoir été réconciliés par le sang de la croix, même si c'est déjà énorme. Il en parle après, il parle de la rédemption. Mais il veut tout de suite les amener à considérer qu'ils ont un nom. Les chrétiens, les christiens ont un nom, ils ont un statut, ils ont une position, ils vivent de grands privilèges, ils ont un rang. Vous êtes assis avec Christ dans les lieux célestes. Vous êtes devenus, vous n'êtes pas seulement réconciliés au sens où il n'y a plus de guerre entre Dieu et vous à cause de vos péchés, mais vous êtes devenus enfants de Dieu. Et on s'aperçoit en réalité en considérant l'ensemble de la théologie que le but de la croix, parce que oui, la croix, c'est la volonté libre et consciente de Jésus. Il n'a pas subi la volonté du Père, mais c'est pas non plus, le Père ne subit pas la volonté de Jésus. C'est une volonté commune, Père, Fils, Esprit. Et Dieu, c'est écrit, parfois c'est Jésus qui dit, je donne ma vie. Il y a d'autres moments, c'est clair. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné. Et le Père a donné Jésus parce que son but, ce n'est pas seulement de nous pardonner nos péchés et d'ouvrir le ciel un jour. Non, son but, c'était que nous devenions ses enfants. Le but n'est pas seulement de nous sauver ou de nous arracher au péché ou de changer nos vies. Le but, ce n'est pas de nous offrir quelques bénédictions. Le but, c'est de nous donner un rang, un statut, une position. Est-ce que vous avez conscience, dit Paul aux Éphésiens et à nous par votre conséquence, est-ce que vous avez conscience réellement de qui vous êtes? Enfin, pour que vous ayez une respiration logique, une fierté mal passée, hein, d'accord? Mais est-ce que vous êtes conscient de qui vous êtes? Et si on avait vraiment conscience de notre posture, de notre stature d'enfant de Dieu, que nous sommes les fils et les filles du roi des rois, que nous sommes devenus les frères de Jésus. Je suis le frère de Jésus. Tu es le frère de Jésus. Tu es la sœur de Jésus. Ça devrait forcément avoir un impact dans ma vie. Oh, je ne peux pas parler n'importe comment. Je ne peux pas me comporter n'importe comment. Je ne peux pas vivre n'importe comment. Ça, c'est trop bon, c'est trop précieux. Et c'est pour ça qu'après, dans la deuxième partie de l'épître, il va les entraîner, une fois qu'il leur a montré la beauté de ce qu'ils ont par le Dieu trinitaire, il va leur montrer leur responsabilité pour ne pas perdre ce qu'ils ont. Et c'est un gros problème parce que Éphèse, on le sait, a abandonné son premier amour, si vous vous souvenez, la première épître, la première lettre de Jean sur les sept églises de la fin des temps, c'est Éphèse. Église qui n'a pas perdu, mais qui a abandonné son premier amour. Alors, soit ils n'étaient pas trop conscients, soit ils ont négligé, et on sent que Paul a beaucoup insisté parce que réellement, il y avait un enjeu ici. Vous êtes les fils et les filles du roi des rois, vous êtes les frères de Jésus, vous êtes co-héritiers de Christ, vous régnez, vous régnerez avec nous pour l'éternité. Et Paul insiste sur tout cela. Si vous prenez quelqu'un, je ne sais pas, prenez un orphelin, prenez quelqu'un qui est pris dans un incendie, je ne sais pas, vous le sauvez, vous l'arrachez au danger, vous lui reconstruisez une maison, vous lui donnez quelques biens, vous lui facilitez la vie, c'est déjà merveilleux. Mais beaucoup de chrétiens vivent comme si Dieu avait fait ça, point. Non, Dieu m'a adopté. Il a fait de moi son fils. Si demain quelqu'un vous sauve d'un incendie et vous donne 5000 balles, pardon, vous avez 5000 balles. Mais s'il vous adopte et que vous êtes son fils, vous avez accès à tout. Parce que vous portez son nom. Quand vous avez accès à tout, vous êtes riche de tout, vous êtes un enfant de la maison. Et pardonnez-moi, beaucoup de gens, beaucoup de chrétiens, pardon, dans leur état d'esprit, vivent encore un peu trop chichement. Parfois un peu comme ce fils aîné de la parabole. Et quand il voit, quand il découvre l'abondance de la richesse, de la grâce du Père dans la vie de son frère, du prodigue, il dit, tu m'as jamais donné un chevreau pour que je me réjouisse. Et le Père lui répond, mais qu'est-ce que tu veux que je te donne un chevreau? Tout ce que j'ai est à toi. Tu as vécu toute ta vie comme si je t'avais ouvert un livret avec 500 balles. Alors qu'en réalité, tu avais accès à toutes les richesses de la maison. C'est le privilège de l'adoption. Parce que Dieu... Alors, je ne vais pas rentrer dans la question de l'élection, etc. Mais oui, effectivement, ça s'explique, ce n'est pas mon sujet. Mais oui, Dieu nous a choisis. Ça ne veut pas dire qu'il est pas les autres. Mais Dieu nous a réellement choisis. Il nous a adoptés.
Amen.
C'est mieux d'être adopté peut-être un enfant né. Parce que je suis désolé, mes frères et sœurs. Votre épouse et vous, mes frères, vous avez eu des enfants. Mais vous avez choisi quoi? Rien du tout. Vous avez pris ce qui est venu comme c'est venu. Vous avez fait des choix? Non, vous avez juste voulu avoir un enfant, vous en avez eu. Garçon ou fille, déjà rien que sur ce point, vous n'avez même pas choisi quoi, vous n'avez même pas choisi quand, vous n'avez même pas choisi comment, vous n'avez pas choisi les yeux, vous n'avez rien choisi, vous avez pris ce qui est venu, et puis, excusez-moi, vous avez fait avec, et encore maintenant, vous faites encore avec. En priant que le Seigneur en sa grâce. Il y a quelqu'un qui a été adopté. Dieu, il n'a pas fait avec ce qui est venu. Dieu est venu, il m'a regardé, il m'a dit, je te veux. Il m'a adopté. Il m'a choisi. Et c'est d'un niveau tellement supérieur, justement parce que c'est sa volonté, alors qu'il savait pertinemment qui j'étais. Il savait pertinemment que je n'y habitais. Il le savait pertinemment. Et il vient, il me dit, tu vas être mon fils. Mais je mérite quoi? Je suis rien. Tu vas être mon fils, je t'adopte. Et ce qui sera à moi sera à toi. Tu vas porter mon nom. On devrait déjà être debout sur les chaises dans le monde. Bon, j'enlève debout sur les chaises, hein, c'est volontairement exagéré. C'est dans nos cœurs, merci Seigneur, on devrait déjà. Et ça, ce sont des choses. Et Paul le sent, les Éphésiens, ils ont du mal avec ça. Il y a une dimension qu'ils n'ont pas saisie. Vous avez la rédemption, apolutrosis dans l'original, ce qui signifie le rachat, la délivrance, c'est-à-dire la libération qui vous a été obtenue par le paiement d'une rançon. Jésus a dit, je suis venu donner ma vie comme rançon, nos péchés étant effacés maintenant par l'œuvre suffisante et toute puissante de Jésus, Nous sommes sauvés. Nous avons été réconciliés, rapprochés. Et comme l'œuvre a été faite par Jésus, eh bien, je peux être adopté par le Père grâce à cette rédemption, comme dit l'Épître aux Hébreux, une rédemption éternelle, ce que le Seigneur nous a acquis. Libéré de la puissance du péché, de la loi, de la mort, etc. Et ça, c'était déjà dans les Romains et dans les Galates. Chapitre 2, verset 5. Vous êtes sauvés par grâce. Vous êtes revenus à la vie par Jésus-Christ. Comme si ça ne suffisait pas, forcément, puisque nous sommes, je le souligne, mais vous avez compris, 1.11 et 3.6, nous sommes héritiers de Christ, nous sommes co-héritiers de Christ. C'est la logique qui va avec l'adoption. Nous avons aussi, en attendant des preuves, nous sommes scellés, dit Paul, nous sommes scellés du Saint-Esprit, qui est un gage de notre héritage. Je sais, beaucoup de bien-aimés, beaucoup de chrétiens, ils aimeraient mieux que le Seigneur leur mette 10 000 euros sur la table, plutôt qu'une dimension de plénitude du Saint-Esprit. Je suis désolé, bien-aimé, le Seigneur ne peut rien faire de même si il peut dire pour moi, tous les gens, le Seigneur ne peut rien faire de plus grand, de plus beau et de plus précieux. Dieu le Père ne pouvait rien faire de mieux que de m'accorder Jésus. Dieu et Jésus ne pouvaient rien faire de mieux et de plus que de m'accorder le Saint-Esprit. Dieu le Saint-Esprit, c'est le gage de mon héritage. Il est bien plus précieux que toutes les autres bénédictions. C'est la bénédiction par excellence. J'ai dans mon cœur, vous avez dans votre cœur, la bénédiction par excellence. Et si j'en suis conscient, c'est toujours pareil, ça va changer ma façon de l'être. J'ai conscience de la présence, que je le ressente, je disais à quelqu'un encore en entretien cet après-midi, je disais, mais que tu le sentes ou que tu le sentes pas, on ne marche pas par les impressions, les ressentis, les émotions, les étendards, les états d'âme. Parfois tu ressens le Seigneur, parfois tu ne le ressens pas. C'est normal, il fait exprès, c'est pour que tu marches par la foi, sur la base de ce qu'il te dit, dans la confiance, dans la foi, et pas sur ce que tu ressens. Mais en réalité, c'est vraiment quelque chose qui doit imbiber, imprégner nos cœurs. Cet Esprit Saint, c'est le gage de notre héritage. Il est là. Dieu est présent. Vous êtes une habitation, dit Paul. Vous êtes une habitation de Dieu en esprit. J'ai conscience de ça. L'Esprit de Dieu est là. C'est toujours pareil. Je vais plus vivre à n'importe comment. On n'a pas besoin de me faire la morale. On n'a pas besoin de m'expliquer. Ça me transcende, ça me bouleverse. Dieu a fait de moi son temple. Et cette présence de l'Esprit de Dieu en nous, c'est ce qui est la plus belle chose, c'est la plus belle preuve qu'il pouvait nous accorder au sujet de notre héritage éternel. Plus précieux, il n'y a rien, pardon, de plus précieux que la présence de Dieu dans mon cœur. C'est la preuve ultime, c'est la preuve ultime d'appartenance et de l'avenir merveilleux que Dieu nous a réservé avec lui, ici-bas. Et pour l'éternité. Et en attendant, je sais, ce sont des réalités spirituelles, donc c'est plus difficile que les choses matérielles. Mais nous avons une position spirituelle. Nous n'avons pas seulement un nom bien-aimé, nous avons aussi une position spirituelle. Chapitre 2, verset 6, je sais, beaucoup de chrétiens disent, mais tu peux dire ce que tu veux, Stéphane, mais la réalité, c'est que moi, je suis assis sur ma chaise ici. C'est que cette semaine, le gars qui était en face de moi, le patron, je me sentais beaucoup plus dans la vase de cette terre que dans les lieux spirituels en Christ. Mon frère, ma sœur, si tu vas chercher, si tu vas percer, comme ils disent, pour ceux qui nous rejoignent, nous sommes en train d'étudier la chambre du trésor. Si tu vas percer ce coffre-fort spirituel et que tu vas chercher réellement ce qui t'appartient spirituellement en Christ, crois-moi, peu importe ton patron, peu importe tes enfants, peu importe si, peu importe ce qu'on va te dire, ce qu'on va te faire, etc. Il y a une dimension en toi. Tu as une vie dans ton cœur qui est infiniment supérieure. Tu es assis en Christ dans les lieux célestes. Tu as une position spirituelle. Tu as des droits, tu as des privilèges, tu as un nom, tu as une position, tu as des acquis, tu as un gage d'héritage et tu as une posture spirituelle. Et c'est à toi, jour après jour, d'aller considérer ces choses, de t'y attacher et de développer ces choses dans ton cœur. Parce que dans le Christ, Paul est clair, Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit, tout nous a été acquis, pardon, et nous sommes appelés à vivre sa qualité de vie, la plénitude de celui qui remplit tout et en tous. Pourquoi le Saint-Esprit dans mon cœur? Pourquoi Dieu lui-même dans mon cœur? Parce que pendant mon pèlerinage terrestre, en attendant un jour d'être au ciel pour l'éternité près de lui avec lui, en attendant un jour d'entrer dans le ciel, il fait entrer le ciel dans mon cœur. C'est pour ça qu'il me donne le Saint-Esprit, pour que tu vives ici-bas déjà le ciel dans ton cœur, le gage de mon héritage. Vous êtes scellés du Saint-Esprit. C'est un sceau, c'est une marque, c'est une preuve indéniable que je lui appartiens, je suis scellé. À l'époque, les rois avaient des anneaux, et cet anneau, pour prouver que c'était le roi, pour authentifier une lettre, nous sommes des lettres de Christ, ils trempaient cet anneau dans la cire, et puis le sceau royal était apposé sur l'enveloppe qui était cachée, et c'était la preuve que cette enveloppe venait du roi. Vous êtes par le Saint-Esprit, mes frères et sœurs, la preuve vivante que vous êtes des enfants de Dieu, que vous êtes des lettres de Christ, que c'est Dieu le Père, que c'est Dieu le Fils Jésus qui a envoyé le Saint-Esprit. Il est un gage de votre héritage, que vous avez été scellés du Saint-Esprit. Merci Seigneur, rien n'est plus beau, rien n'est plus précieux que la glorieuse personne du Saint-Esprit dans nos cœurs, dans nos vies. Avec tout cela, vient naturellement, bien aimé, j'avance, si jamais je n'y arrive pas, tu peux mettre l'image suivante, merci beaucoup. Il y a cette paix profonde, c'est la deuxième partie de mes messages, après on va prier. Il y a cette paix profonde, cette paix véritable qui est la conséquence de tout ce que nous avons vu. Paul va insister sur le fait que nous avons été rapprochés. Christ, notre paix. 2.13. En Christ, vous avez été rapprochés. Conséquence directe. 2.14. Christ, notre paix, nous a réconciliés. Mais on n'a pas été rapprochés au sens où il n'y a plus de tension, il n'y a plus de grief entre lui et nous, que la question du péché étant réglée. Non, 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 non. C'est que vous avez été rapprochés. Vous avez été unis, vous avez été rapprochés. Je vous ai mis ici, pas une fois, mais de façon permanente, nous accordant maintenant par sa grâce un libre accès, le privilège d'un accès libre et permanent. J'ai la paix parce que je suis réconcilié avec Dieu. J'ai une joie, c'est mon premier sujet de joie, la joie du salut, la paix du salut parce que je sais que je suis réconcilié avec Dieu et qu'il n'y a plus de condamnation sur ma vie, que je suis libre, délivré de la colère à venir. Et le privilège aussi d'avoir cet accès libre et permanent, l'Épître aux Hébreux 3, Hébreux 4, pour ceux qui notent Hébreux 4, 16, approchez-vous avec assurance du trône de la grâce, parce que vous avez cette assurance qu'au trône de la grâce, vous allez être secouru dans tous vos besoins. Vous allez trouver grâce. Le trône de Dieu est un trône de grâce. Vous allez trouver grâce. Vous allez trouver miséricorde. Et d'une façon ou d'une autre, Dieu est souverain. Il sait, c'est à lui que ça appartient, le comment lui appartient. Et vous allez être secouru dans tous vos besoins. Nous avons ce privilège d'un accès libre et permanent. Accès auprès du Père, dans un même esprit. Vous n'êtes plus des gens du dehors, vous êtes des gens de la maison de Dieu, une habitation de Dieu en esprit. Voyez bien que Paul, je ne sais pas si vous aviez déjà fait attention, vous voyez bien que quasiment à chaque verset, Paul, il les enchaîne et il les insiste, et on est vraiment dans la chambre du trésor. Tu as ça, c'est à toi, attends, c'est pas fini, attends, c'est vrai, je prêche un peu longtemps, mais ça, c'est à toi, mais t'as toujours pas compris. Ça, c'est encore à toi, et ça, c'est à toi, et ça, c'est. Vous êtes une habitation de Dieu en esprit. Vous êtes co-héritiers de Christ, je l'ai dit tout à l'heure. Vous avez la liberté de vous approcher de Dieu avec confiance. Christ habite dans vos cœurs par la foi. Et puis, comme ça ne suffisait pas, c'est comme si Paul, alors qu'il a dit, vous avez ça. Et de toute façon, j'ai encore même pas tout dit. Dieu peut faire infiniment au-delà de ce que vous pensez, de ce que vous imaginez. Dieu peut faire infiniment au-delà, chapitre 3, verset 20. On sent bien dans tout ça, bien aimé, que Paul cherche réellement à apporter une conviction dans leur cœur, peut-être même plus qu'une conviction, aussi une conviction, mais vraiment, je dirais, opérer une prise de conscience. Cette prière qu'il fait à différents moments de l'épître qui est entrecroisé avec les bénédictions. Je prie afin que vous ayez un esprit de révélation dans sa connaissance. Je prie afin que Dieu illumine les yeux de votre cœur pour que vous compreniez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel, etc., etc. Paul cherche réellement à leur faire prendre conscience, non seulement de qui ils sont, mais aussi de tout ce qu'ils possèdent déjà, tout ce qui leur a été acquis, et dont ils ne doivent surtout pas se priver, tout ce que Dieu est pour eux, et le Dieu trinitaire, et tout ce que le Dieu trinitaire leur a accordé par grâce, afin que, en attendant d'aller au ciel, je vive de ses richesses, de ses bénédictions, de sa plénitude. Est-ce que nous, bien-aimés, on n'a pas aussi un peu du mal, un peu beaucoup de mal, parfois ou souvent, à réaliser nos privilèges? Peut-être que, sûrement, on vit régulièrement, en tout cas, dans un état d'esprit un peu comme le fils aîné de la maison. Seigneur, donne-moi un chevron pour que je me réjouisse. On vit chichement, alors que spirituellement, on vit chichement. Je parle de choses spirituelles, c'est clair. Alors que nous sommes riches, et puis du coup, on peut être chiche dans la joie, on peut être chiche dans la paix, on est chiche en amour, on est chiche dans la louange, parce que ça nous mène. On est chiche dans ce feu, dans cet élan que vraiment naturellement, ça ne jamais de nos cœurs, de nos. Pour un Dieu aussi extraordinaire, est-ce que, pardonnez-moi de le dire ainsi, est-ce que des fois, on ne vit pas un peu comme des mendiants auprès de notre Seigneur, mendiant de paix, mendiant de joie, mendiant de bénédiction, alors que le Seigneur nous dit, tout ce que j'ai est à toi. Le Dieu trinitaire leur a tout acquis, il nous a tout acquis, il nous a tout donné. C'était à eux, c'est à nous de le considérer, de le réaliser, de se l'approprier, conscient que nous sommes comblés, conscient que nous ne sommes pas n'importe qui. Il est question de tout ce que nous sommes, il est question de tout ce qui nous a été acquis en héritage pour ici-bas et pour l'éternité. Et puis, comme je vous l'ai dit, on verra ça la semaine prochaine. Si le but de l'épître aux Éphésiens est effectivement d'aider les croyants de tous les âges à réaliser qui ils ont et tout ce qu'ils sont, tout ce qu'ils possèdent, tout ce qu'ils ont dans le Dieu trinitaire, les trois derniers chapitres ont pour but de leur montrer leur responsabilité, afin de ne pas dilapider, de ne pas perdre, de ne pas gaspiller cet héritage, parce qu'on ne peut pas le perdre, de ne pas le gaspiller. Les trois premiers chapitres décrivent à merveille tous les trésors et les richesses qu'il y a dans cette chambre forte. Les trois derniers, on le verra la semaine prochaine, mettront l'accent sur la responsabilité afin que ces choses, nous les vivions et que nous les pratiquions. Et voilà pour ce soir. Si jamais vous n'avez pas d'idée d'action de grâce, si jamais vous ne savez pas quoi dire au Seigneur, ben là, il y a plein de choses, il y a plein d'occasions de louange, d'action de grâce, de dire merci, en plus de votre intercession. Amen. On se recueille ensemble, tous les bien. On prie le Seigneur. Si, bien sûr, il y a des sujets, vous avez de la liberté, peut-être, je vous donnerai un ou deux sujets, car là, le cas de prière, mais qu'on ait de la liberté, peut-être. Réellement, nos cœurs se centrent premièrement, non pas sur nos besoins, non pas sur ce que Dieu devrait encore faire pour que nous allions peut-être mieux, mais simplement centrer nos cœurs sur tout ce que nous sommes grâce à l'œuvre du Dieu trinitaire et tout ce qu'il nous a acquis, tout ce que nous avons parce que nous sommes riches de lui, et que ça éveille en nous, que ça réveille en nous. Non pas seulement un élan, mais vraiment une façon de vivre dans l'amour, une passion pour son nom. Seigneur, merci.